France Inter.
Sophie !
Je suis là, madame.
Vous voulez-vous bien sortir, sotte créature que vous êtes, plus vite que ça ? Me direz-vous ce que vous faisiez là-dedans ? Ne vous avais-je pas défendu d'approcher de ce placard ?
Si, madame.
Je vous ai déjà dit de m'appeler maman.
C'est horrible. À chaque fois que j'entends des bouts des malheurs de Sophie, je suis immensément triste pour Sophie. Bonjour Sabrina Marquez.
Bonjour.
Vous êtes autrice, comédienne, voix off. Vous appartenez à la grande famille des beaux-parents, cette famille qui ne va qu'en grandissant. Ces femmes et hommes à la position délicate qui vivent avec les enfants de leurs compagnons ou de leur campagne. Compagne, pas campagne. Et marchent parfois sur des œufs sous leur propre toit. Alors pour se faire une idée de leur nombre, le recensement de 2019 indiquait que 800 000 beaux-parents vivaient en France avec des enfants de leurs conjoints ou conjointes, dont parmi eux 27% de belles-mères. C'est pour ces 27% que vous montez au créneau dans deux livres qui racontent votre propre histoire, Une semaine sur deux ou presque, et Belle-mère au bord de la crise de nerfs. Alors Sabrina Marquez, rassurez-nous pour commencer. On va essayer de s'éloigner du modèle de ces malheurs de Sophie. Est-ce que vous vous entendez à peu près bien avec votre belle-fille ?
Alors oui, c'est-à-dire, on va dire une heure sur deux, je m'entends bien avec elle. Mais ma belle-fille rentre dans l'adolescence, donc c'est encore une autre étape.
Une nouvelle histoire.
Une nouvelle histoire.
Dans la revue française de psychanalyse, on a trouvé l'expression « amère » pour qualifier la représentation des belles-mères, celle qui n'est pas la mère, souvent prise en porte-à-faux entre un lien aux enfants qu'elle veut développer et un rôle sans statut parental ni social. Est-ce que vous êtes un petit peu d'accord avec cette proposition de la revue française de la psychanalyse ?
Je suis totalement d'accord. Oui, la représentation de la belle-mère, bon bah déjà, de la belle-mère, elle est inexistante. Voilà, nous, on est une pièce rapportée qui est souvent invisible. On ne fait pas part, on ne prend pas part aux décisions, aucune. Pourtant, financièrement, moi, je suis très présente dans la vie de ma belle-fille, mais juridiquement, je n'ai absolument aucun rôle.
Financièrement, c'est-à-dire que vous financez ses vacances,
oui, bien sûr. Enfin, voilà, je participe à sa vie. Et d'ailleurs, j'ai réalisé tout à l'heure que elle a vécu plus de temps avec moi qu'avec ses parents. Voilà, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc on vit ensemble. Et ma belle-fille a vécu 2 ans avec ses parents. Donc, je pense que, je sais pas, j'ai gagné un truc.
Vous n'êtes pas toujours très tendre avec votre belle-fille dans votre livre, vous livrez un portrait assez hilarant de votre quotidien ensemble. Vous avez l'impression de briser une omerta autour de cette pression imposée aux belles-mères qui sont censées multiplier les tentatives pour nouer des relations avec les enfants de leurs conjoints ou ointes, créer du lien, comme vous l'écrivez dans le livre. Vous assumez-vous de beauté en touche de ne pas toujours avoir envie de créer ce lien ?
Mais j'assume totalement. Mais j'assume depuis pas très longtemps. C'est-à-dire que le déclic s'est fait il y a un an ou deux.
Alors que vos livres datent d'il y a plus longtemps que ça.
Ouais, mais je n'avais pas encore eu le déclic. Non, j'avais pas du tout eu le déclic. Au contraire, j'étais encore dans quelque chose où je voulais absolument que ça se passe bien. Je dépensais une énergie folle. Et c'est en me rendant compte que je dépensais énormément d'énergie là-dedans que je me suis dit, mais en fait, moi, je suis en train de m'oublier. Ça va pas du tout. Et donc, j'ai eu un déclic et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Eh ben, c'était en fait de prendre de la distance par rapport à tout ça. Et donc d'aller boire l'apéro plutôt que de m'occuper de ma belle-fille. Ça marche vachement bien, je suis hyper heureuse.
D'assumer l'égoïsme. Quoi.
Totalement, exactement.
Mais il y a quand même plein de clichés sur les belles-mères. Elles sont pas sympas, elles supportent pas que leur conjoint ou leur conjointe ait déjà eu des enfants. C'est vraiment la méchante dans les contes. On l'a entendu tout à l'heure avec un extrait des malheurs de Sophie. Vous êtes super marrante. J'ai lu les livres, donc vraiment je vous trouve très drôle. Mais c'est quand même très éloigné de la réalité. Vous êtes pas tendre avec votre belle-fille. Vous êtes pas méchante dans l'histoire.
C'est pas vous la méchante. Non.
Alors encore une fois, non mais alors c'est bien ça le problème, c'est toujours nous les méchants. Moi je pense qu'il n'y a pas de méchants dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on essaie de faire comme on peut. De toute façon, quoi qu'il arrive, la belle-mère va s'en prendre plein la tronche, quoi qu'il arrive. Moi justement,
plus que le beau-père.
Le beau-père, c'est encore une relation différente, je trouve. Enfin, moi, dans mon expérience, c'est que le beau-père reste à distance dès le départ. C'est-à-dire que il y en a qui veulent s'impliquer, mais souvent, c'est je m'implique pas trop. Alors que nous, les belles-mères, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose, on se dit, allez, il faut absolument que cet enfant m'aime, j'aime son père, il faut absolument que... Et en fait, on dépense, comme je disais tout à l'heure, une énergie qui est absolument abominable. Mais il y a pas de méchant dans l'histoire. Je pense qu'il y a surtout des personnes qui font ce qu'elles peuvent avec ce qu'on leur donne, et parfois, on leur donne pas grand-chose. Mais non, je ne suis pas la méchante.
Il y a beaucoup d'inconvénients finalement au rôle de belle-mère, c'est-à-dire que c'est des gens, enfin voilà, vous n'avez pas choisi l'enfant.
C'est
C'est pas le vôtre, quoi.
Non,
j'ai personne n'a choisi son enfant, hein, cela dit, Marine.
Certes, mais tu l'as fabriqué, ton enfant, ouais. Alors que...
Moi, je n'aurais pas choisi celle-là, d'ailleurs. Mais évidemment, on ne choisit pas l'enfant. Après, je veux dire, moi, pour parler de mon expérience à moi, je suis arrivée avec plein d'amour pour cet enfant, parce que j'aimais profondément... Oula, je parle au passé, je t'aime toujours, mon amour. Mais je veux dire, voilà, j'aimais profondément son papa, donc je me suis dit, j'ai de l'amour à donner pour elle aussi. Et je suis arrivée avec tout cet amour à lui donner, et bon, je me suis rendu compte que c'était impossible, parce qu'elle le refusait totalement.
Parce qu'elle est dans un conflit de loyauté.
Elle est totalement dans un conflit de loyauté, totalement.
Votre compagnon, vous l'appelez Monsieur Gentil dans le livre, vous pensez que le match belle-mère-belle-fille lui donne un rôle où il a un peu le cul entre deux chaises, il doit faire l'intermédiaire ? Est-ce qu'il prend tout à fait ses responsabilités ?
Moi, s'il doit faire l'intermédiaire, il a été très mauvais. Mais non, moi, je dis souvent qu'il a le cul entre quatre chaises. C'est-à-dire qu'il doit composer avec moi, avec son ex, avec notre fille et avec sa fille. Et je sens qu'il y a un réel problème de toute façon par rapport à sa culpabilité. C'est-à-dire qu'il porte toujours en lui, et pourtant ça fait 8 ans, hein, la culpabilité de s'être séparé de son ex. Non pas qu'il l'aimait encore, mais d'avoir brisé en fait une famille qu'il avait créée. Et ça c'est très compliqué, parce que résultat, ça fausse absolument tout dans la relation. Même dans la relation père-fille, dans la relation belle-mère-fille, tout est faussé, tout.
Parce qu'il y a de la culpabilité.
Exactement.
Titu Lecaq, il existe depuis 2003 une association qui s'appelle le Club des Marâtres. Ça existe. Et vous, dans votre livre, c'est le Club des Belles-Mères Anonymes que Chloé fréquente, votre héroïne. Les problématiques des belles-mères invisibilisées par la société, est-ce qu'elles sont mieux vécues, vous croyez, quand elles sont partagées, quand on peut au moins discuter ensemble ?
Alors ça, c'est absolument certain. Et en plus, on s'est beaucoup, ces dernières années, on a beaucoup parlé de la charge mentale, de la maternité, de la parentalité, etc., de inventer une manière de faire famille autrement. Je dis, les familles recomposées essayent d'inventer ça depuis longtemps, et pas avec des gros résultats positifs, hein, disons-le. Et donc, je pense qu'il y a un vrai tabou, effectivement, sur ce sujet-là. On en parle très, très peu. Et Fiona Schmidt aussi avait fait un livre là-dessus, mais il y a vraiment, on peut les compter, il n'y en a pas énormément.
Qui arrivent à poser les questions, à dire les problématiques, justement.
Qui posent les questions, et qui, même si on prend juste les histoires de panier de linge sale, je dirais, effectivement, on peut se dire, c'est pas réparti de manière égalitaire, mais si en plus... on fait des tâches ménagères pour un enfant qui n'est pas le vôtre et qui ne vous aime pas beaucoup. Peut-être qu'on a aussi un sentiment d'injustice qui est plus élevé.
Je voulais réagir.
Et pour finir sur une note à la fois belle et triste, il arrive aussi que la belle-mère ou le beau-père s'attache beaucoup aux enfants avec qui il ou elle vit, parfois des années, comme le personnage incarné par Virginie Efira dans Les Enfants des Autres, le film de Rebecca Zlotowski, qui doit leur dire au revoir au moment d'une séparation. Être beau-parent, c'est aussi prendre un risque de souffrir qu'on n'avait peut-être pas mesuré au départ, non ?
Ah, de toute façon, oui. Enfin, moi, j'imagine souvent que ma belle-fille, quand elle sera plus grande, prendra la décision de ne plus me voir. Enfin, ça, c'est vraiment les pires moments. Et je me dis, je pourrais pas aller à son mariage. Vraiment, dans ma tête, je déroule ce fil où, à un moment, elle sera toujours proche de ma fille, qui est sa sœur, et moi, qui sera loin de moi. Et donc, je souffre déjà par avance, alors que si ça se trouve, ça ne se passera pas comme ça.
Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous anticipez.
J'anticipe un truc assez dramatique, parce que parfois, ça peut très mal se passer, mais si ça se trouve, tout se passera bien, j'en sais rien. C'est-à-dire que c'est ça l'aventure aussi de la famille recomposée, c'est que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Il n'y a pas un jour qui se ressemble, pas un seul. C'est des montagnes russes constamment.
Et pour finir, est-ce qu'en apprenant à être un peu plus égoïste, ça s'est mieux passé avec votre belle-fille ?
Oui. Alors oui. Oui, parce que je me suis plus occupée de moi, j'ai pris plus de temps pour moi. Enfin, j'en prends toujours d'ailleurs. Et donc, oui, effectivement, c'est-à-dire que j'arrive à peser à la maison au lieu de déjà énerver.
Avec un peu de rancœur peut-être.
Avec de l'alcool dans le fond. c'est beaucoup plus facile.
Un grand merci Sabrina Marquez pour ce franc-parler. Et pour votre intervention. Vos livres s'appellent Belle-mère au port de la crise de nerfs et une semaine sur deux avec le ou presque entre parenthèses. On peut aussi vous suivre sur Instagram, vous me parlez pas mal de tout ça. C'est @sabmarquez.